Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, vous qui avez la Palestine en vue et qui la voulez en vie, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce lundi 23 mars. Aujourd'hui, on parle de ce qui résiste quand plus rien ne tient, de ce qui continue de vivre quand seule la cendre frémit. Aujourd'hui, on parle de la culture et singulièrement de la culture de Palestine à l'occasion de la 11e édition du festival Palestine en vue qui a lieu dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et ici à Aubenas, au cinéma Le Navire, du 26 au 29 mars. Rien ne peut rester constant, rien n'est immortel. La mort ou l'exil peut arracher le souffle ou les corps des pionniers de la culture, mais elle ne peut pas effacer leurs traces. À nous de conserver, enrichir, faire connaître et transmettre leur héritage. Ce sont les mots de Iyad Alastal, journaliste et réalisateur palestinien, vice-président de l'Association Culture de Palestine, qui, avec le collectif Solidarité Palestine de l'Ardèche méridionale et l'association France-Palestine Solidarité, organise ce festival. Iyad Alastal, qui sera présent ici à Aubenas vendredi pour présenter son programme de court-métrage documentaire Pour l'honneur de Gaza. Eh bien, pour l'honneur de Gaza, que ce mot nous accompagne pendant toute la durée de cette émission consacrée au festival Palestine en vue. On en parle dans un instant avec nos invités, dont Catherine, qui vient de se manifester. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Catherine Chamas sera là avec nous dans quelques instants. Jean-Claude Perron également et Hélène Vol, tous trois du collectif Solidarité Palestine de l'Ardèche méridionale.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les trois. Mais ça, c'est dans un instant. On en parle après le bonjour à Sylvain.
Bonjour.
Salut Sylvain. Et le bonjour à Marion.
Bonjour.
Pour l'agenda. Un agenda tout empreint de documentaires et de films, de cinéma engagé.
Le cinéma engagé, on commence toujours dans le cadre du printemps du documentaire, le film Soulèvement, réalisé par Thomas Lacoste, sera projeté demain à 20h à la salle de la Pourrette à Valgorge. Donc c'est 16 militants des Soulèvements de la Terre qui viennent face caméra parler de leur combat. Ils racontent leur motivation, mais aussi témoignent de la répression. Donc ce film, c'est pas seulement un film pédagogique ni une enquête journalistique, on est du côté du sensible. La projection sera suivie d'un échange animé par l'association Les Vieux Fourneaux de Bomdrobi, c'est donc demain à 20h à la salle de la Pourrette à Valgorge. Et le printemps du doc, c'est aussi à Thueil demain, à la salle Thueil, à la salle Vesprade à 20h30 pour la projection de Rural d'Edouard Bergeon. Donc dans ce documentaire qui se veut le porte-voix de la colère paysanne, Edouard Bergeon s'est intéressé à la figure médiatique des ultras de l'A64, un collectif de paysans de Haute-Garonne visant à défendre et à promouvoir l'agriculture locale. Donc Rural témoigne d'un monde qui, pour ne pas mourir, donne de la voix. C'est donc demain à la salle Vesprade à Thueil à 20h30. Et le Festival des droits humains continue aussi demain au Vence. Donc l'espace Vivence au Vence projettera le film « Un jour avec mon père » de Akolina Davi. « Un jour avec mon père », c'est un récit semi-autobiographique qui se déroule sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l'immense ville alors que des troubles politiques menacent. C'est donc demain à l'Espace Vivance, au Vence, à 20h30, et la projection sera en Vostfr. C'est tout pour ce petit agenda culture et engagement.
Super, mais merci beaucoup. Mais avant de le clore complètement, et puisqu'on va parler de l'importance de la culture comme boussole, comme bouée, ce qui survit et nous relie à notre commune humanité, et puisque nous sommes au lendemain des élections municipales, un mot sur le programme de la nouvelle équipe municipale d'Aubenas, avec à sa tête Jean-Romain Ribert et sa liste Génération Aubenas, qui a largement remporté les élections municipales, 58,3% des voix et 47% d'abstention. Donc un mot particulièrement sur ses engagements en termes de culture.
Oui, dis-nous Sophie.
Voilà. Non, je viens de faire entendre ses engagements. En tout cas, la culture ne fait partie d'aucun de ces 10 points prioritaires. Lors du premier débat avec les trois autres candidats, le deuxième n'ayant pas eu lieu puisqu'il s'y est opposé. Il y fait mention de trois points. Le château, centre d'art contemporain et du patrimoine, un musée de je ne sais pas quel délire, selon ses propos, dont il dit après coup « on est très fiers du château, mais si le coût devenait trop important, on réfléchirait à des solutions ». Deuxième point, puisqu'il faut apparemment faire des économies, un vague projet de construction. On envisage de créer une salle de spectacle dans l'aile gauche de l'espace Liénard, dit-il, ce n'est pas chiffré, mais c'est à l'étude. Gageons et espérons que l'entrepreneur, dans le crédit et dans l'immobilier, trouve des solutions pour le bien commun et non l'intérêt privé. Et enfin, en termes de patrimoine, je souligne que le terme culture n'apparaît nulle part. La réouverture du dôme Saint-Benoît au public avec le projet d'une ligne bleue et jaune, un circuit matérialisé inspiré par celui de Saint-Jacques de Compostelle. On espère que la réalité dépassera les engagements et les promesses et que la municipalité restera un soutien de la radio et plus largement des associations et structures culturelles qui font vivre le territoire. Et bien maintenant, on attaque en musique.
يا لعليك القلب حزين وهادي السنين تدمع العين لا حبيبة يا فلسطين يا وين العرب نايمين يا زينة البلدان من ظلم الإخوان العديان ولي صهيون اللي طمعين فيه ما نسمح فيك يا غزة مالك ري علي بعيدة يا رفح ورام الله
voix de la chanteuse jordano-palestinienne Zeineh avec Rajawi Falestini, le choix musical, ou en tout cas Zeineh, choix musical de nos invités, notamment Jean-Claude Perron qui est là avec Catherine Chamas. Bonjour, rebonjour Catherine.
Bonjour.
Et Hélène aussi, Hélène Vol, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les trois donc du collectif Solidarité Palestine de l'Ardèche méridionale et vous êtes ici pour nous parler de culture palestinienne à l'occasion de la 11e édition du festival Palestine en vue qui a lieu là cette fin de semaine, jeudi, vendredi et dimanche au cinéma Le Navire à Aubenas. D'abord, juste un mot de ce qu'on vient d'entendre, Jean-Claude Zeineh.
Zeineh, c'est une jeune chanteuse jordanienne, mais d'origine palestinienne. Ses grands-parents étaient de Naplouse et ils ont fui en Jordanie comme de nombreux Palestiniens. Elle a une formation de musique classique. Sa mère était pianiste. Et elle est danseuse aussi. Elle a appris la danse traditionnelle du Dabke. Sa mère avait organisé ça à Amman, une troupe de danse Dabke, la danse traditionnelle palestinienne. Et elle s'est mise à chanter des chansons d'autres personnes. Et elle était remarquée par un producteur jordanien qui lui a dit « Mais c'est formidable, ta voix et tout. » Et il a incité à écrire ses propres chansons. Et donc, elle retrouve dans ses chansons ses ancêtres, son pays, sa terre, à laquelle ils tiennent encore, bien qu'ils soient exilés loin de là, quoi. Et donc, c'était vraiment... pour moi, c'est important que soit. Elle est très jeune. Hein, c'est important que des jeunes se réapproprient leur passé, et en même temps avec des formes musicales tout à fait contemporaines, parce qu'elle a aussi d'autres titres où ça.
Avec de la, ça balance.
Ça balance bien, ouais.
Et puis, c'est un petit peu aussi ce que vous essayez de faire avec ce festival Palestine en vue, rendre la culture palestinienne visible, vivante. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, peut-être Jean-Claude, de ce festival, donc 11e édition, pour celles et ceux qui faisaient autre chose ces 11 dernières années?
Oui, c'est 11e édition, donc c'est un festival régional. Il va y avoir une centaine de projections dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, bien sûr, à Aubenas, hein, avec le Cinéma Le Navire, qui est un partenaire précieux pour nous et qui nous accueille toujours techniquement et convivialement de façon géniale. Donc, c'est la 11e année aussi à Aubenas. Pour ce festival, quoi. Et donc, effectivement, vu les tentatives d'effacement du patrimoine, de la mémoire et de la culture palestinienne, effacement d'un peuple, de sa terre, on tient à dire que la culture, c'est l'âme des peuples, et que effectivement, il faut en parler, la préserver, faire tout ce qu'on peut pour qu'elle existe, qu'elle continue d'exister. Donc, aux côtés des Palestiniens, qui sont les premiers à être les ardents défenseurs de leur propre patrimoine, de leur propre culture, nous aussi nous employons à les soutenir.
Et donc là, vous proposez cette année à Aubenas 4 films. Il y avait une sélection de 11 films, je crois.
Même un peu plus, oui. Et donc, on a essayé de répartir entre fiction documentaire, répartir aussi, choisir aussi des films de femmes, ce qui nous semblait important, parce qu'elles sont très, très présentes dans la création culturelle palestinienne. Et puis aussi de choisir par endroit, un film qui parle de Gaza, un film qui parle de la Cisjordanie occupée, et puis un film qui parle fait par un Palestinien d'Israël qui habite en Israël. Donc ça permet de répartir géographiquement et d'aborder un petit peu tous ces aspects de la vie des Palestiniens avec leurs différentes composantes. Et puis voilà, ouais.
Et avant d'aborder justement chacun des films qu'on va voir ensemble rapidement, mais comment se peut-il qu'il y ait encore une production cinématographique à Gaza aujourd'hui ?
Ben, c'est-à-dire qu'à Gaza...
Enfin, à Gaza ou en Palestine.
À Gaza, oui, toujours. À Gaza aussi. À Gaza aussi, puisque les films le film de Yael Al-Astal, qui s'appelle « Pour l'honneur de Gaza », est filmé par des réalisateurs, des artistes de Gaza. C'est-à-dire que le cinéma palestinien, il existe depuis très longtemps, comme beaucoup de cinémas. Et il a rencontré un public international assez vite à cause de la solidarité qu'il a pu susciter, aider à faire susciter dans le monde entier. Et le cinéma palestinien n'existe que grâce à ses soutiens internationaux. Et donc il y a des producteurs, des réalisateurs, des professionnels du cinéma dans le monde entier qui s'attachent à soutenir ce cinéma. Donc beaucoup de films qui sortent sont coproduits, disons, avec des productions internationales. En France, dans les pays nordiques, aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde d'ailleurs. Ouais. Mais il y a toujours une boîte de production palestinienne avec une adresse en Palestine, parce qu'il ne faut pas oublier que ça vient de là, quoi.
Alors, on va essayer ensemble d'explorer un petit peu ces 4 films que vous avez choisis. Le premier, ce sera donc jeudi à 20h avec Merci d'avoir choisi notre banque, un film de Laïla Abbas. Et on écoute d'abord Laïla Abbas parler aussi d'elle et de son film.
I am the writer-director of Thank You for Banking with Us. I made this film in very, very unusual conditions. I shot it before October 2023, and then I continued to work on it after that. You know, Palestine changed drastically in that short time. I think the world changed drastically in that short time. People usually ask me if I make stories about women in particular. I don't know why I don't feel comfortable with this. And I simply think that I make stories or I make films about people, whether men or women.
Leïla Abbas, donc, qui sera d'ailleurs en visio à l'issue du film, vous pourrez discuter avec elle. On a entendu là, donc elle s'exprimait en anglais, dire à la fois que c'était un tournage dans des conditions très particulières, puisqu'elle a commencé avant le 7 octobre 2023, voilà, et aussi sur... Et ça, c'est intéressant, sur la société palestinienne, puisqu'elle dit, on me pose souvent la question, est-ce que je fais des films de femmes ? Et elle dit, mais non, je fais des films de personnes avant, que ce soit hommes ou femmes.
Oui, ceci dit, que c'est quand même un film qui met en scène deux actrices principales, deux rôles principaux, et on suit leur péripétie dans le film, avec justement ce problème de remise en cause du patriarcat, puisque de plus en plus de cinéastes palestiniens, hommes ou femmes, n'oublient pas de tourner leur caméra sur leur propre société. Parce qu'il n'y a pas que le problème, il y a l'énorme problème colonialiste israélien, mais il y a aussi le problème de leur société, société patriarcale, avec des traditions religieuses parfois contraignantes, et surtout pour les femmes, effectivement.
Alors, et est-ce que tu peux juste nous dire en un mot ce que raconte ce film, justement, pour pas
perdre film, il raconte l'histoire de ces deux sœurs, qui sont très différentes, qui ne s'entendent pas forcément dans la vie, mais qui se retrouvent liées à la mort de leur père. Et à la mort de leur père, elles pensent héritage. Et l'héritage, elles ont un frère qui était aux États-Unis. Et l'héritage, dans la tradition islamique, il est la charia, la loi qui est appliquée encore. Il est réservé en grande partie aux fils. C'est-à-dire que d'entrée, la moitié de l'héritage va au fils, et ensuite, ce qui reste va réparti entre les sœurs, les filles, ou même le fils aîné. Et donc voilà, elles vont essayer de faire en sorte que de détourner cette loi pour pouvoir récupérer l'héritage à leur profit. Voilà, donc c'est un film d'humour noir, je dirais, avec une conception esthétique qui est très très belle, puisqu'il se passe beaucoup la nuit, et donc il y a des images de tournage de nuit qui sont très très bien léchées, très bien faites, avec travail sur la mise au point, etc. Enfin, voilà, c'est cette histoire-là, quoi.
Et comme tu dis, qui creuse des thématiques voilà, de la société palestinienne en dehors de du conflit israélo-palestinien.
Alors dans ces films, que ça fait plusieurs que je vois qui se tournent sur cette société palestinienne, que ce soit ceux des films Nasser, des frères Nasser, ou ceux de Hani Abou Assad par exemple, qui aussi, pareil, se tournaient sur la société, il y a toujours un petit filigrane quand même le problème de l'occupation et de la colonisation qui est derrière. Ça apparaît toujours en filigrane, parce que l'état de leur société dépend aussi de ce qu'on leur fait subir par ailleurs, de l'extérieur, quoi.
Et oui, mais ouais. Comment peut-il en être différemment ? C'est ce qui fait aussi, j'imagine, partie de la culture en soi.
Enfin, bien sûr.
La
bien
culture sûr, ouais. palestinienne. Le deuxième film, justement, est davantage tourné vers Gaza. On entend un bref extrait.
غزة بتحب الحياة وبنفس الوقت ممكن تموت بسهولة
ويا البس فوز عش يأكل
غزة البحر غزة الكرم غزة الصحبة الحلوة غزة أرض خصبة لكل شيء.
On vient d'entendre un extrait de Pour l'honneur de Gaza de Iliad Alastal. C'est un programme de 9 courts documentaires, et on a entendu ici ce jeune garçon dire: Gaza aime beaucoup la vie, mais en même temps, on y meurt facilement. Gaza la mer, Gaza la générosité, Gaza les bons amis, avant d'entendre une bombe retentir dans Gaza. Ce film, il est donc ce film de Iliad Alastal qui sera présent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je ne sais pas si Catherine, Jean-Claude d'abord.
Oui, donc c'est un film. Iliad Alastal est un cinéaste de Gaza que je connais depuis longtemps, puisqu'il réalisait une série de vidéos qu'il mettait en ligne sur YouTube, en français, sous-titré en français, parce qu'il est francophone. Il a appris le français. Il a été formé au cinéma en Corse. Et donc, c'est un cinéaste qui, à Gaza, filme la vie quotidienne. Et toute cette série de très nombreux courts-métrages, ça va de 2 minutes à 10 minutes, nous montre effectivement les Gazaouis, comment ils vivaient depuis une dizaine d'années. Les artistes, les chercheurs, les commerçants, enfin, toute une galerie de personnages très précieuses, parce que c'est une mémoire, effectivement, de Gaza avant. Ce qu'on ne verra plus jamais, puisque Gaza a été détruit, rasé, anéanti. Et donc, c'est très précieux. Et donc, Yad a réussi... On est plusieurs à avoir tenté de le faire venir en France, grâce au consulat français... de là-bas à Gaza. Et il avait beaucoup travaillé avec le Centre culturel français, puisqu'il est francophone, et donc on a réussi à le faire venir en France, à le faire sortir de Gaza. Et donc il a souhaité continuer à témoigner de ce qui se passait là-bas, mais aujourd'hui, après, maintenant que Gaza est sous le feu, et donc il a, avec les équipes qui sont restés sur place. Il a réussi, lui, avant de partir, de récupérer des images.
Donc c'était en 2024, hein. Il est parti en 2024.
Ouais, c'est ça, oui. Avant de partir, il avait pu, les images qu'il avait pu faire, et puis ensuite, depuis, il a récupéré les images de ses équipes qui ont continué à tourner. Ils font toujours un travail de mémoire. C'est important pour eux de dire on filme, parce que tout ça est en train de disparaître et c'est un travail de mémoire. C'est important de faire. Mmh. Voilà.
C'est une trace, c'est le, ce que je disais au tout début, ce qu'il disait, elle ne peut pas effacer, donc la mort ou l'exil ne peuvent pas effacer leur trace, la trace de la culture. Catherine.
Oui, alors avant de parler de Gaza, je voudrais souligner en fait le contraste qu'il y a entre ces deux films, c'est-à-dire celui du jeudi et du vendredi, qui montre vraiment deux aspects de la vie palestinienne et de la résistance. Voilà, que ce soit avec le premier film qui se passe à Ramallah, où certainement beaucoup de personnes vont être surprises de voir cette vie de Ramallah, avec une société, on va dire, très dynamique, une société où les communautés palestiniennes, chrétiennes et musulmanes se côtoient, qui a vu un afflux d'avions, d'argent, de fonds internationaux arriver en raison du processus d'Oslo, qui a finalement fabriqué, rendu cette ville comme une ville administrative pour l'autorité palestinienne, puisque Jérusalem a été interdit aux Palestiniens à partir de 1982 et de l'annexion de cette ville qui, dans le processus d'Oslo de départ, devait être aussi Jérusalem-Est, la capitale de l'État palestinien revendiquée comme telle. Donc là, on voit une société ouverte au monde moderne, émancipée, où tout le monde se côtoie sans problème. Voilà. Et donc, le contraste avec la bande de Gaza, entièrement détruite, et où la bande de Gaza à l'heure actuelle, moi j'ai bien connu la bande de Gaza avant 2003, enfin bien connu. J'ai pas mal visité depuis 98 la bande de Gaza, entre 98 et 2003, où j'ai été interdite d'y aller, en tant que palestinienne citoyenne d'Israël. Donc j'ai connu cette bande de Gaza qui fait 10 km de large sur 40 de long, en gros, où effectivement j'ai rencontré une société très dynamique et j'avais été sollicitée par le syndicat de la médecine générale pour effectuer un voyage
voilà, avec les médecins. Et donc, j'ai visité les différentes structures de santé là-bas. On y reviendra avec l'UNRWA. Mmh. Mais c'est juste pour dire que dans la bande de Gaza, 80% de la population de la bande de Gaza, ce sont des réfugiés de 1948 ou de 1967. Voilà.
Ouais, merci pour ces précisions. Hélène, tu voulais aussi faire retentir, puisqu'on ne t'a pas encore entendu, tu es venue avec quelques poèmes, justement, puisqu'on parle de culture palestinienne. Mmh. Et la poésie est vraiment presque la plus... Enfin, l'outil, c'est... le mot est vilain pour parler de ça, mais... Merci. L'instrument culturel le plus... Voilà, le majoritaire. Donc, si tu veux nous faire écouter quelques...
Bien sûr. Alors, je vais vous lire deux extraits d'un livre d'une autrice, d'une écrivaine palestinienne de Gaza, qui s'appelle Naïma Hassan. Et elle a commencé à tenir un journal de sa vie à Gaza à partir des événements du 7 octobre, dès le 9 octobre 2023. Elle a commencé à écrire et donc nous avons sélectionné deux textes. Donc le 23 mars 2024, vent violent ce soir, comme s'il punissait les tentes de camper au milieu de la rue. Lit glacé, je vérifie si mes enfants ont froid aussi. Leur corps, en boule, m'entoure en un cercle fermé, attendant mon signal. Je suis la danseuse principale. Peut-être que leurs respirations produisent la musique voulue. Le bruit du drone est un ajout du chorégraphe pour susciter l'attention. Voilà pour le premier extrait. Et un deuxième extrait, donc, d'un petit bout de texte qu'elle a écrit le 14 octobre 2024. Lorsque tu m'interroges sur ma peur, je parle de la mort du marchand de café, de ma jupe devenue le toit de ma tente, de la chatte abandonnée dans la ville vide qui miaule dans ma tête. Je veux un gros nuage qui ne pleut pas et un avion qui livre des confiseries et des murs colorés pour dessiner une petite fille avec des bras qui sourit. Ce sont les rêves de tante. Je t'aime. J'ai assez de courage pour escalader un bâtiment inexistant et pour me blottir dans tes bras et avouer que je vais bien. Tu peux répéter la question ?
Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que tu peux répéter le nom de l'autrice ?
Oui, alors il s'agit de Naïma Hassan. Donc, je ne sais pas exactement son âge, mais c'est une jeune femme qui a publié déjà deux romans. L'un s'appelle « Ce n'était pas une mort » et un autre « Où dansent les flammes ». Et elle a publié également un recueil qui s'intitule « Lettres préméditées ». Voilà, elle publie également beaucoup sur les réseaux sociaux et elle est suivie donc dans le monde entier grâce à ses écrits et surtout ses écrits poignants depuis octobre 2023. Voilà.
Et peut-être qu'on retrouvera ce livre, en tout cas d'autres, au navire, puisqu'il y a des stands oui. qui sont proposés avec des autrices et des auteurs palestiniens.
Oui, en effet, oui. Les textes que je viens de lire sont extraits donc de son œuvre qui s'appelle Soi Gaza, qui a été donc publiée récemment et qui qui rassemble des textes qu'elle a écrits de octobre 2023 à novembre 2024. Et ces textes ont été traduits par Soad Labiz.
Merci beaucoup. En français. Merci beaucoup. On parle de ce qui va se passer dimanche. Donc là, on a parlé de jeudi. Vendredi, dimanche, deux films, dont le premier, tu as commencé à en parler, Catherine, sur l'UNRWA.
Lundi 28 octobre 2024, l'UNRWA fait face à une escalade sans précédent dans son histoire. Le Parlement israélien a adopté à une écrasante majorité un projet de loi interdisant toute activité de l'agence onusienne en Israël.
It is very much an attack on the UN as a whole. and on the international law if UNRWA is attacked.
L'UNRWA vacille. Les donateurs se détournent. Comment en est-on arrivé là?
Oui, UNRWA, 75 ans d'une histoire provisoire, un film de Liana Salé et Nicolas Vadimov qui sera donc diffusé à 17h dimanche au cinéma Le Navire. Qui veut parler de ce film?
Je peux commencer Jean-Claude, pour parler de la réalisatrice Liana Salé, qui est d'origine palestinienne, mais qui vit en France, est journaliste à France 24 et à d'autres médias, quoi. Voilà. Autrement, sur l'UNRWA, je pense que Catherine va pouvoir nous dire des choses.
Oui, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'approcher de près les structures de l'UNRWA au cours de ce voyage que j'avais préparé avec le syndicat, pour le syndicat de la médecine générale, où nous avons visité tous les systèmes de santé, que ce soit en Palestine, dans la Palestine occupée, c'est-à-dire la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et donc, les dispensaires de l'UNRWA, c'est-à-dire l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés palestiniens de 1948 au départ, ensuite c'est devenu pour aussi 1967, dans les pays du Moyen-Orient. Donc la Palestine y est directement concernée, ainsi que tous les pays autour. Voilà. Et donc cette institution s'est mise en place, a été mise en place par l'ONU en décembre 1949 afin de porter secours donc aux réfugiés. Et bien entendu, entre les travaux de départ prévus et la suite des événements, il y a plusieurs fonctions de l'UNRWA qui ont été obligées de s'adapter aux circonstances. À savoir que normalement, il était prévu qu'au bout d'un an, tous les réfugiés puissent rentrer chez eux, à leur terre d'origine et à leur propriété d'origine. Et ça, c'était l'ONU en décembre 1949.
Voilà. Il y a 77 ans.
Comment ?
Il y a 77 ans.
Il y a 77 ans. Et depuis... Normalement, les financements sont assurés, bien entendu, par les pays extérieurs pour aider cette institution à se mettre en place selon les critères de l'ONU et des droits humains, notamment. Et l'UNRWA assure donc que tous les services, que ce soit d'éducation, de santé, de services sociaux, etc., enfin tout ce qui peut concerner les réfugiés pour les aider à survivre, et surtout très efficace dans le système culturel et de la santé, c'est très important, puisqu'ils emploient aussi beaucoup de personnes qu'ils ont formées à mesure. Et donc l'historique est très important, puisqu'il nous permet de faire le tour de la situation de l'UNRWA dans les pays, et des pays donateurs, j'imagine. Enfin, j'ai pas vu le film. Hein. Mmh. Et c'est donc un film très important pour la connaissance de la Palestine et de la situation des réfugiés palestiniens dans le monde.
Et UNRWA qui est contestée et qui, là, arrive à en fin de cycle, c'est ça?
Mais, en fait, ne devrait pas être contestée, puisque c'est le droit international, oui, et la communauté internationale avec les pays du Conseil de sécurité qui l'ont mis en place et qui devrait pérenniser les fonds. Et c'est, je dirais, simplement Israël qui œuvre depuis le début à vouloir faire disparaître cette question de l'agenda politique. Et c'est notre devoir, je pense, de résister à cette atteinte aux droits humains fondamentaux.
Donc UNRWA, 75 ans d'une histoire provisoire de Liana Salé et Nicolas Vadimov sera diffusée, donc, enfin, sera projetée au cinéma Le Navire dimanche à 17h. Et puis ce sera suivi alors d'un buffet, puisque ça fait partie aussi de la culture, la gastronomie palestinienne. Et à 20h15, un dernier film, on écoute quand même quelques secondes.
We intercepted some activity on your daughter's social media that raised some concerns.
In 1948, we were forced to leave and were never allowed to go back.
Dad!
Dr. Smith said that this move should help.
Alors, on entend un film un peu une sorte de thriller ou un peu fantastique.
Ouais, c'est un film fantastique, vraiment, oui, parce qu'il y a du surnaturel dedans.
Une maison à Jérusalem, un film de Mouayad Alayan, qui est un Palestinien qui dépend de Jérusalem, comme 2 millions de Palestiniens. Jean-Claude.
Oui, donc c'est effectivement un Palestinien d'Israël, hein, comme 20% de la population de l'État d'Israël. Et donc son film met en scène une petite fille juive qui vit avec ses parents à Londres. Sa mère a un accident mortel, voiture, et elle se retrouve donc orpheline de mère. Et son père décide, pour changer radicalement la donne et pour pouvoir rebondir, disons, de retourner à Jérusalem dans la maison de son grand-père. Mais la maison de son grand-père, c'est aussi la maison qui avait été volée aux Palestiniens. Et donc, tout ce passé remonte dans le film de façon assez fantastique, effectivement.
Les fantômes. Une maison à Jérusalem. Oui, donc un autre genre, en fait, oui, pour raconter voilà. Quelque chose de politique, mais on utilise un autre genre qui est le fantastique. Il nous reste plus de temps, on est déjà hors cadre. Juste à préciser quand même qu'à l'issue de cette projection, il y aura un échange avec la FPS et Culture de Palestine. Tu voulais ajouter quelque chose, Catherine ?
Oui, pour dire que c'est un des aspects de la dépossession des Palestiniens de leurs terres et de leurs maisons. Par Israël, puisque voilà, et le droit de retour en fait est caricatural de la conséquence de cette situation qui n'est pas appliquée sur le plan du droit international. Et...
Ouais. Faut-il le préciser encore, effectivement, qui n'est pas appliqué. Merci à tous les trois d'être venus nous parler. Donc,
c'est trop court.
Mais c'est trop court, c'est trop court, et nous sommes déjà tellement en retard. Cette 11e édition du Festival Palestine en vue, donc je vous le rappelle, qui a lieu au cinéma Le Navire ce jeudi, vendredi et dimanche. Merci tous les trois.
Merci à vous.
Et merci Marion pour la préparation de cette émission et pour l'agenda. Et merci Sylvain à la technique. Merci à vous, auditrices, auditeurs. Restez à l'écoute de Fréquence 7 si vous voulez. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Mais à 13h, c'est la rediff de Sam Travail. À 15h, le Telex, c'est-à-dire vos événements en Sud-Ardèche. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, solidaire d'abord. À 19h, l'écho du parquet. Et à 21h, Hexagone Jazz & B, qui est consacré à l'album de Michel Petrucciani qui s'appelle Both Worlds, c'est-à-dire est-ce que deux mondes peuvent-ils à nouveau cohabiter ? Merci Steph pour ce clin d'œil. Pour la fin de cette émission, on se retrouve demain pour parler des vivants et des morts. Ciao.